Bonjour mes frères et mes sœurs. Connaissez-vous la Bible? La lisez-vous souvent? L'étudiez-vous? Si tel est le cas, comment se fait-il que parfois vous dites « je ne comprends pas la Bible » En fait, pourquoi tant de gens lisent la Bible et ne la comprennent pas? Pourquoi il y a tellement d'interprétations en ce qui concerne la Bible? Et pourtant, lorsque vous prenez un manuel d'école, mettons, d'une façon générale, les questions qu'on pose sont faciles à comprendre ou bien le texte est facile. Pourquoi n'en serait-il pas de même en ce qui concerne la Bible? Il y a plusieurs réponses à ces questions. Tout d'abord, il y a des passages dans la Bible qui sont très faciles à comprendre. Par exemple, Dieu dira « tu ne mentirais pas ». Bon, si Dieu nous dit « tu ne mens pas », tout le monde peut comprendre cette simple phrase. Par contre, il y a des prophéties qui sont difficiles à comprendre. Là, c'est une question de spéculation. Il y a encore, à part cela, des commandements que la plupart des gens, d'une façon générale, auxquels ils n'aiment pas obéir, auquel cas ils jettent ces commandements. Autrement dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Bible est difficile à comprendre en ce qui concerne l'homme moyen. Et par-dessus le marché, il y a encore une autre condition, c'est qu'il y a des passages dans la Bible qui ont besoin d'être compris spirituellement. Autrement dit, avec l'aide de Dieu. Si par exemple Dieu me dit une chose, cette chose doit être prise et en partie sur le côté physique, mettons, et spirituel. Comme par exemple Dieu a dit dans Matthieu chapitre 7, 5, 6, 7, comme on dit le sermon sur la montagne, le Christ a amplifié les commandements. Quand il a dit « tu ne tueras pas », ça c'est la partie physique que l'esprit humain comprend. Mais lorsqu'il dit « lorsque tu es fâché contre ton frère », c'est comme si tu es coupable d'assassinat. Alors là, c'est difficile, voyez-vous. Je comprends maintenant pourquoi les gens nous disent « ils n'aiment pas lire la Bible ». Eh bien moi-même, ça m'a pris longtemps pour comprendre comment d'abord lire la Bible. Écoutez, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs façons. Vous pouvez la lire d'un bout à l'autre, ou bien vous pouvez prendre un passage quelconque, ou alors chercher des sujets que vous analyserez avec l'aide d'autres ouvrages s'il le faut. Mais sachez une chose, les ouvrages écrits au sujet de la Bible ne sont pas inspirés. Seule la Bible est inspirée. Alors, une fois que vous avez ceci en tête, par exemple, prenez des sujets, la création. Vous cherchez dans la Bible où vous pouvez trouver la création. Ou bien, vous voulez avoir des prophéties. Vous cherchez dans la Bible les prophètes comme Ésaïe et Ézéchiel, ainsi de suite. Ou alors, les évangiles. Les évangiles représentent la vie du Christ. Ce que le Christ est venu enseigner, ce que Christ veut que nous fassions. Ou alors, vous avez les actes où les apôtres nous montrent comment ils ont suivi les instructions du Christ. Comprenez-vous, lire la Bible ne veut rien dire à moins d'avoir quelque chose en tête. Prenez un sujet. Ayez une raison pour étudier la Bible. Même inspiration, pas de problème. Vous voulez être inspiré, lisez les psaumes. Seulement, lorsque vous lisez les psaumes, soyez sûr que vous comprenez le sens des psaumes. Parfois, par exemple, David, il se plaint, ou parfois il remercie, souvent, je dirais il remercie. Parfois, il y a une lutte entre lui-même, mais il conclut, la plupart du temps, vous verrez, que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu sait ce qu'il fait. Alors, ce matin, ou cet après-midi, comme vous voulez, j'ai une façon nouvelle peut-être d'aborder ce sujet. Autrement dit, je vais me mettre à votre place. Que vous soyez membre de l'Église ou non, je vais vous montrer comment, dans la Bible, on peut trouver des sujets qui sont intéressants, non pas seulement pour étudier, mais aussi pour nous aider à comprendre ce que c'est que la vie, pourquoi nous sommes nés, ce qui se passe après la mort, et ainsi de suite. Vous savez, il y a certains passages dans la Bible où tous ces sujets sont groupés. C'est presque impossible, mais si. D'autre part, il y a aussi des passages qui sont tout à fait, je dirais, exclusifs, comme Hébreux 11, par exemple. Hébreux 11, le chapitre de la foi. Dans ce chapitre, vous pouvez voir comment les appelés du Christ ont lutté, ont maintenu leur foi et ont réussi. Commençons par le commencement. Dieu nous a créés. La première question que tout le monde se pose, pourquoi ? Quel est le but de la vie ? Voilà un sujet qu'il faut étudier. Ensuite, vous pouvez voir autour de vous, regardez, il y a des souffrances. Dès le commencement du monde, les gens n'ont cessé de souffrir. Pourquoi ? Une fois encore, la Bible répond à cette question. Vous direz, mais où ? Eh bien, j'ai une surprise pour vous. Je vais prendre aujourd'hui un seul chapitre de la Bible qui vous montre pourquoi nous sommes nés et ensuite pourquoi nous souffrons. C'est déjà quelque chose. Mais il y a plus. On dira, mais qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions ? Autrement dit, quels sont ses désirs ? Quels sont ses commandements ? Comment y arriver ? Bon, une fois encore, le chapitre que j'ai en tête va répondre à cette question. Autrement dit, un seul chapitre dans la Bible va vous dire pourquoi nous sommes nés, ce que Dieu attend de chacun de nous, et quel est le but final en ce qui concerne la création et les raisons de nos souffrances. Mais ce n'est pas tout. Quels sont nos rapports entre le Christ et nous ? Là encore, ce sont des questions, je répète, vous pouvez prendre dans la Bible, faire des études, des sections où ces sujets seront analysés profondément. Et pourtant, le chapitre que j'ai en tête, que l'apôtre Paul a écrit lui-même, vous donne la réponse à toutes ces questions. N'est-ce pas intéressant ? Vous savez, quand je pense à chacun de nous comme nous raisonnons, moi je voudrais que Dieu raisonne comme moi, mais ce n'est pas possible. Je dois raisonner comme Dieu et non pas vice-versa. Moi, je voudrais que tout le monde me comprenne, mais ce n'est pas ça. Il faut que je comprenne tout le monde. Moi, je voudrais que les gens m'aident, mais ce n'est pas ça. Il faut que moi-même, je cherche à aider. C'est l'inverse, voyez-vous. Autrement dit, si vous voulez vraiment comprendre la Bible, mettez-vous à la place du Christ qui a donné sa vie afin que nous puissions nous hériter la vie éternelle. Il y a aujourd'hui des gens qui comprennent la Bible assez bien, d'autres qui ne comprennent pas du tout. La plupart des gens, que ce soit chrétiens ou non, se posent la question, « Oh, est-ce que j'ai vraiment commis le péché impardonnable ? Est-ce que vraiment Dieu m'en veut ? Ou bien est-ce que vraiment j'ai perdu la chance d'être sauvé ?» Là encore, être sauvé signifie quoi ? Être sauvé signifie que nous serons arrivés au point où nous pourrons être transformés d'être physique que nous sommes en être spirituel que nous serons. Ça, c'est le salut. Comment y parvenir ? Est-ce qu'il y a moyen de perdre cette chance du salut ? Aujourd'hui, vous entendez souvent des gens dire « Oh, je suis sauvé une fois pour toutes ». D'après la Bible, est-il possible d'être sauvé une fois pour toutes ? Voilà des questions. Si vous cherchez dans la Bible la réponse à ces questions, et je vous dis, vous la trouverez partout. Par exemple, le Christ a dit dans Matthieu 24, verset 13, « Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. » C'est une condition. Donc, vous ne pouvez pas être sauvé une fois pour toutes. Vous devez persévérer jusqu'à la fin et vous serez sauvé. Voyez-vous ? Voilà, c'est ainsi qu'on comprend la Bible. Une fois pour toutes, ayez ceci en tête. Vous n'êtes pas condamné une fois pour toutes et que vous êtes c'est fini, ou bien vous n'êtes pas sauvé une fois pour toutes. Tout dépend jusqu'où vous allez, le chemin que vous prenez et quelle sera la fin. Je vois des gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont découragés parce qu'ils disent « Moi, je sais que j'ai commis le péché impardonnable » alors qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est que le péché impardonnable et que Dieu ne va pas me pardonner. Ayez une chose en tête, Dieu pardonne tous les péchés dont on se repent. Je répète, Dieu pardonne tous les péchés dont on se repent. Se repentir, c'est ne pas répéter. Se repentir, c'est regretter ce qu'on a fait et aller de l'avant en prenant le bon chemin. Donc, quel que soit le crime commis, quelles que soient les fautes commises, quels que soient les péchés que vous avez faits, ayez une chose en tête. Dieu vous pardonnera si vous vous en repentez. Savez-vous, j'ai en tête le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Romains 8. C'est intéressant car Paul répond à toutes ces questions. Je vais vous montrer, je prendrai la plupart des versets dans ce chapitre et vous expliquerai. Du reste, savez-vous comment Romains 8 commence? Là encore, vous direz non, je ne sais pas, d'accord. Mais Romains 8 commence déjà par un encouragement fantastique. Paul dit, il n'y a donc maintenant, dit-il, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le commencement du chapitre. Regardez, il n'y a pas de condamnation ceux qui sont en Christ. Donc, voilà une condition. C'est là encore une autre raison pour comprendre ou ne pas comprendre la Bible. La Bible a toujours les deux côtés. Dieu vous promet une chose, vous devez faire votre part. Dieu vous dit, fais ceci, et voilà les conséquences. Ici, donc, si vous êtes appelé, si vous comprenez, si vous ouvrez, si vous cherchez à être chrétien, et si vous faites la volonté de Dieu, il n'y a aucune condamnation. Autrement dit, vous ne continuerez pas à vivre dans le péché et vous ne serez pas condamné une fois pour toutes. Certes, vous ne comprendrez pas tout. Certes, ça prendra du temps jusqu'à ce que vous soyez converti, mais vous n'êtes pas perdu une fois pour toutes. Voilà déjà une assurance fantastique. Ensuite, Paul continue avec le verset 2 de ce chapitre, Romains 8, je répète, « La loi de l'Éternel, dit-il, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Là encore, automatiquement, un seul verset, Paul vous dit, « Le péché est entré en ce monde lorsque le premier couple s'est fait séduire par Satan le diable et a désobéi à Dieu. » Mais nous devons apprendre de cette leçon. Ensuite, nous devons savoir que si nous transgressons nous-mêmes les lois, nous sommes sous l'amende de la loi. Donc, l'apôtre Paul ici nous explique que le Christ est venu pour affranchir, pour payer l'amende de nos péchés à notre place. Comme vous pouvez voir, je vais lire ce verset et vous expliquer en même temps. Ensuite, Paul dit, une chose impossible de la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ça veut dire quoi ça? Je ne peux pas être sauvé par mes actes. Il n'y a que Dieu qui sauve. Dieu sauve par son Saint-Esprit. Je fais ma part, Dieu fera la sienne. C'est toujours ce même principe. J'observe les commandements de Dieu, mais je ne suis pas sauvé par l'observance des commandements. J'observe les commandements de Dieu, par l'observance des commandements, je reçois le Saint-Esprit qui me permet d'avancer dans la bonne voie, la voie que le Christ a mise devant nous tous. Commencez-vous à comprendre. Je vais vraiment faire de sorte que vous puissiez savoir ce que c'est que le but de la vie et comment y parvenir. Dieu a condamné, verset toujours 3, Romains 8, le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans la chair semblable à celle du péché. Autrement dit, le Christ est venu prendre nos péchés sur lui-même, sur son compte. Donc, le Christ est devenu en quelque sorte péché pour nous. Il nous a montré comment cesser de pécher. Et par son sacrifice, donc, nous avons accès à cette grâce qui est le salut. Le Christ, donc, a donné tout ce qu'il avait. Il a abandonné sa divinité afin que nous puissions, nous, être capables de parvenir au salut. Un sacrifice immense que nous ne comprenons pas, parce que nous ne savons pas ce que c'est que l'étendue du sacrifice du Christ. Verset 4, « Afin que la justice de la foi fût accomplie en nous. » Qu'est-ce que la justice de la foi? Si nous avons foi en Dieu, si nous faisons notre part, et si nous nous soumettons à Dieu, Dieu est toujours juste, toujours fidèle, toujours bon. Ses promesses sont la justice de la foi et sont accomplies en nous. Et nous pourrons ainsi donc être transformés si nous marchons non pas selon la chair, verset 4 toujours, mais selon l'esprit. Là, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, que nous soyons dans l'Église ou non, nous avons toujours cette tendance de marcher selon la chair. Car nous sommes chair et non pas selon l'esprit. Souvent, nous avons en tête quelque chose, nous voulons faire cela, et nous savons que ce n'est pas tout à fait juste, mais quand même, nous nous excusons, Dieu comprendra. Non, ne raisonnez pas ainsi. Prenez votre Bible, ou bien mettez-vous à genoux. Si vous savez que ce que vous faites, ce n'est pas juste, ou ce que vous pensez n'est pas juste, cessez de le faire ou de le penser. C'est comme ça que vous pouvez donc tuer cette tendance et vivre selon l'esprit, non pas selon la chair. Et, voyez-vous, je disais il y a quelques instants, pourquoi souffrons-nous? Nous souffrons parce que nous transgressons des lois, les lois divines. Mais n'importe quelle loi, même humaine, nous souffrons. Et quelle est l'amende du péché? L'amende du péché, c'est parfois la mort, humainement parlant. Mais en ce qui concerne Dieu, l'amende du péché, c'est la mort physique. Voilà pourquoi nous devons cesser de pécher. Et l'apôtre Paul dit, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Alors, prenez-vous, exemple, comment est-ce que vous vivez? Vous cherchez à plaire à vos désirs charnels, vous cherchez à plaire à vos propres, je dirais, demandes. Lorsque vous avez besoin d'aider quelqu'un, est-ce que vous mettez vos sentiments, vos désirs, vos intérêts avant ceux de votre prochain? Est-ce que c'est toujours vous à qui vous intéressez? Si c'est le cas, vous marchez selon la chair. Si vous faites ce que Dieu lui dit, autrement dit, le Christ est venu donner sa vie afin que nous puissions, nous, suivre le bon chemin. Mais si vous vous affectionnez aux choses de la chair, la fin, c'est la mort. Et Paul dit, mais si vous vous affectionnez, dit-il, aux choses d'en haut, par l'esprit, dans ce cas-là, dit-il, vous parviendrez au but. Autrement dit, si je m'efforce de suivre toujours les commandements de Dieu, la voix de Dieu, le désir divin, et non pas les miens, je suis sûr de me mettre sur la bonne voie du salut. C'est cette lutte entre la chair humaine et l'esprit de Dieu qui occasionne entre nous, je dirais, ces souffrances. Regardez voir, l'apôtre Paul dit, l'affection de la chair, dit-il, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, de Dieu, c'est la vie éternelle. Je paraphrase. Dit-il, parce que les deux affections ne vont pas main dans la main. Écoutez, mes frères et mes sœurs, nous savons fort bien, nous qui sommes membres de l'Église, vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde, un pied dans la Bible. Pas possible. Si vous pouvez avoir, mais vous ne serez pas vraiment chrétien. Si vous voulez plaire à Dieu, vous devez avoir, vous, les deux pieds dans la vérité. Et lutter chaque fois contre des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici du reste. Très clairement, verset 6, l'affection de la chair, dit-il, amène la mort, tandis que l'affection de l'esprit amène la vie et la paix. Et ensuite, il dit que les deux sont ennemis. Autrement dit, l'affection de la chair ne peut pas comprendre ce que c'est que l'affection de l'esprit. Et Paul nous montre très clairement que cet esprit humain en nous ne peut pas vivre selon Dieu à moins que nous changions, nous voulions changer. Et il dit, cet esprit humain ne peut pas plaire à Dieu. Il y a une lutte entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Là, voyez-vous, j'entre dans des sujets profonds, si vous voulez, si vous ne comprenez pas, pas la Bible. Mais pourtant, c'est aussi, ce sont des sujets simples parce que la Bible vous dit, écoutez, vous avez deux choses, l'affection de la chair, l'affection de l'esprit. L'un mène à la mort, l'autre mène à la vie éternelle. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est facile. Et maintenant, c'est à vous, c'est à moi de prendre une décision. Et la plus facile, évidemment, c'est de suivre la voie qui nous plaît. Moi, je voudrais, franchement parlant, humainement parlant, tâchez-moi de comprendre, de faire des choses qui me plaisent, de m'amuser comme ça me plaît, etc. Mais ça, ce n'est pas la voie divine. Ça, c'est l'affection de la chair, dont la fin, c'est la mort. Mais d'autre part, si, par exemple, je me prive de ce que j'appelle l'affection de la chair et que je fasse ce qui est juste aux yeux de Dieu, qui est toujours la bonne solution, dans ce cas-là, j'arrive au but et je trouverai, en fin de compte, la voie du bonheur. Ensuite, il dit, pour vous, dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, lorsqu'il est question de vous et de nous, c'est toujours s'adresse à ceux qui sont convertis à ce que Dieu appelle. C'est un terme technique, certains d'entre vous ne comprenez pas peut-être, mais si Dieu vous appelle, vous êtes sur la voie de la conversion. Donc, si Dieu vous appelle, vous êtes de ceux à qui la Bible s'adresse directement. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Autrement dit, si vous êtes membre de l'Église de Dieu, si vous êtes baptisé, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne vivez pas selon la chair. Vous, comme je dis, vous ne suivez pas cette voie. Mais dit-il, vous suivez la voie qui plaise à Dieu. Comprenez-vous la différence? Il dit, car dit-il, l'Esprit de Dieu habite en vous. Là encore, un autre sujet. Allez-y petit à petit pour comprendre la Bible. Pour que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous devez être baptisé. Parce que c'est après le baptême, l'immersion dans l'eau, que vous recevez le Saint-Esprit et que cet Esprit habite en vous. Dès ce moment-là, il y a un lien entre vous et Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous unit à Dieu. C'est ce lien-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en sorte de gage en vous en ce qui concerne votre héritage de la vie éternelle. Voyez-vous, je tâche d'expliquer aussi simplement que possible. La plupart de vous qui m'entendez, vous savez cela. D'autres ne comprennent pas bien. D'autres encore comprennent, mais ne le pratiquent pas. Il dit, si l'Esprit de Dieu habite en vous, dit-il, vous êtes du Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, dit-il, il ne lui appartient pas. Encore une autre vérité de base. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes chrétien vraiment si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Autrement dit, si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit après le baptême, et si vous ne vivez pas continuellement dans l'obéissance aux lois divines. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas vraiment dire que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais d'autre part, si vous faites cela, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et il dit, si l'Esprit dit-il de Dieu habite en vous, Dieu qui a ressuscité donc Jésus d'entre les morts, il vous ressuscitera aussi. Voyez-vous, voilà déjà une autre, la même vérité, mais ça se répète d'une autre façon. En tant qu'humains, nous mourrons tous. La Bible dit clairement que tous nous mourrons, car tous nous avons péché. Mais en tant qu'humains, nous avons aussi le privilège d'être nés dans le royaume de Dieu si l'Esprit de Dieu habite en nous et si nous faisons, nous, ce que Dieu nous commande de faire. Donc, celui, Dieu le Père, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, va aussi, dit-il, ressusciter nous autres, ça c'est verset 11, si nous suivons la bonne voie. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, j'ai lu environ une dizaine de versets dans Romains 8. Mais regardez voir toutes ces vérités qui sont sorties. Alors, il n'y a pas de contradiction dans ces vérités. Si vos croyances à vous diffèrent de ce que je vous dis ici, alors débarrassez-vous de vos croyances. Croyez à ce que Dieu dit. Ayez en tête une chose, la Bible ne se contredit pas. Les contradictions arrivent lorsque votre esprit charnel commence à trouver des raisons pourquoi ça ne serait pas ainsi. Et que vous voulez faire à votre façon les choses. Je répète, déjà, les 10 versets que j'ai lus vous montrent comment parvenir au but de la vie, et qu'il y a un but, et que vous n'êtes pas condamné une fois pour toutes, et non plus vous n'êtes pas sauvé une fois pour toutes. Vous serez sauvé à mesure que vous avancez dans la voie du salut. Et maintenant, il y a cette vérité qui se révèle au verset 12, 13 et 14. Paul dit, si nous, donc, en tant que frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, autrement dit, nous ne sommes pas condamnés une fois pour toutes. Si nous faisons notre part, nous devons toujours avoir confiance, cette certitude que Dieu nous aidera. Il dit, si vous vivez, dit-il, selon la chair, vous mourrez. Voyez-vous, c'est toujours la même chose qui se répète. Mais par contre, il dit, si vous vivez selon l'Esprit, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, verset 14, sont fils de Dieu. Alors, je m'arrête encore une fois. Nous sommes des êtres charnels, physiques. Dieu est esprit. Pour le moment, nous ne pouvons pas être fils de Dieu ou enfants de Dieu, spirituellement parlant. Car nous sommes toujours chair, physique. Mais nous sommes fils de Dieu ou enfants de Dieu, engendrés car nous avons reçu le Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'engendrement que nous recevons lorsque nous nous faisons baptiser, nous sommes engendrés de Dieu, et la naissance qui aura lieu après la résurrection des morts. Là encore, une autre vérité qui se révèle. Une fois que vous avez cette vérité de base, n'importe quelle autre doctrine qui ne serait pas conforme à cette vérité de base, rejetez-la. Ce n'est pas facile. Autrement dit, si vous voulez vraiment être enfant de Dieu, faites-vous baptiser, repentez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser et recevez le Saint-Esprit de Dieu par l'imposition des mains de la part du ministre de Dieu. Et ainsi, vous serez alors un enfant engendré de Dieu. Engendré, pas encore né. Et au moment de la résurrection, vous serez né de Dieu, vous serez transformé. Voilà la base. Voyez-vous, je viens de finir presque 13 ou 14 versets. Et nous avons déjà une vérité fantastique qui se révèle. Et nous serons donc fils de Dieu parce que nous avons tous ce même but. Dieu veut que tous les êtres humains, un jour parviennent au salut. La plupart y parviendront, certains pas, ça c'est à eux, ça c'est à Dieu. Mais peut-être que vous, si vous avez vraiment ce désir d'être dans ce groupe qui seront sauvés, faites votre part. Et l'apôtre Paul nous encourage au verset 15 en disant, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Mes frères et mes sœurs, nous, dans l'Église de Dieu, nous voyons les souffrances autour de nous. Nous voyons des souffrances dans notre maison. Nous avons parfois des morts, des tragédies, des maladies. Et nous nous décourageons. Nous ne devons pas nous décourager. La voie du salut est parsemée parfois par des difficultés. Mais nous devons marcher avec la foi car le Christ ne va pas nous abandonner. Nous n'avons pas besoin d'être soumis à cet esprit de servitude, de crainte, car vous avez dit-il reçu l'esprit d'adoption. Eh oui, lorsque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes engendré de Dieu, vous êtes adopté par Dieu, donc vous avez reçu l'esprit d'adoption. Comme l'apôtre Paul dit ailleurs dans Timothée, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais de courage, d'amour, de force. Voyez-vous, rien que dans ce chapitre déjà, Romains 8, vous avez toute une vérité, vous avez toute la révélation en ce qui concerne le but de la vie et comment y parvenir. Et quelle sera donc la fin de cette histoire? C'est que si vous vivez ainsi, dit-il, vous ne vivrez pas dans la crainte, mais dit-il, vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Lorsque nous prions Dieu le Père, nous disons « Notre Père ». Et c'est juste ce que le Christ a dit. Mais en quelque sorte, Dieu le Père, on peut l'appeler ainsi un peu plus, un peu davantage, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, car Dieu devient notre Père par adoption. Tout le monde doit prier Dieu en tant que son Père. Mais l'autre monde n'est pas pour le moment adopté. Quoique Dieu est toujours disposé à l'adopter. Mais si nous faisons notre part, nous devons autant plus raison de dire Dieu lorsque nous prions. Ça, c'est beau, vous savez. Vous avez un ami, vous parlez à votre ami, et vous savez que cet ami est très, très puissant, et que cet ami vous aime. Vous savez que lorsque vous lui demandez quelque chose, cet ami qui vous aime le fera. Mais maintenant, vous parlez à Dieu, le Créateur suprême. Vous dites Dieu, mon Dieu. Regardez voir cette différence. Le Dieu suprême qui a créé l'univers vous écoute. Et vous pouvez l'appeler notre Père. Regardez voir, c'est inimaginable. Moi qui ne suis rien, j'ose appeler le Créateur suprême des cieux et de la terre, Dieu, mon Père. Mon Père qui m'aime. Voyez-vous, c'est tellement encourageant qu'on dirait, mais écoutez, on est fou de ne pas vraiment faire ce que Dieu nous dit. Car nous disons à Dieu, notre Père, Abba Père, l'Esprit lui-même il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu par le baptême et l'imposition des mains nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et que, dit-il, si nous sommes enfants, regardez voir ça. Là encore, voilà une vérité qui se révèle fantastiquement bien dans la Bible, Romains 8 toujours. Dans ce seul chapitre, vous pouvez voir toute la vérité révélée en ce qui concerne le salut. Donc, si je dis « Notre Père » à Dieu, car j'ai reçu le Saint-Esprit et je suis son fils par adoption, quoique je répète, tous peuvent et doivent prier Dieu en tant que leur Père. Mais si nous avons reçu l'Esprit d'adoption, alors nous sommes quoi? Réfléchissez. Si j'appelle Dieu mon Père, et que c'est le cas, je suis quoi? Je suis son fils, son enfant. Et je suis son enfant et fils. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul répond. Il dit, si nous sommes enfants de Dieu, dit-il, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et c'est vrai, j'ai un fils. Mon fils est mon héritier. Vous avez des enfants, vos enfants sont des héritiers. Nous sommes les enfants de Dieu par adoption, nous héritons. C'est que Dieu nous promet. Dieu nous promet la vie éternelle, la bénédiction. Donc, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Voilà. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur de dire « Le Christ est mon frère ». Car Christ, qui était Dieu, qui est devenu homme, il est retourné à sa divinité, mais en quelque sorte, il sera et il est toujours notre frère aîné. Voilà pourquoi nous serons comme le Christ, nous avons hérité. Et dit-il, si toutefois, dit-il, nous souffrons un petit peu, verset 17, avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de contradiction. Il y a peut-être des contradictions dans votre façon de penser, mais si vraiment le Christ est mon frère aîné, si vraiment je suis fils de Dieu par adoption, et je suis héritier de Dieu, donc j'hériterai de la gloire, non pas pour me glorifier moi-même, non, pour faire ce que le Christ a fait. Il a donné sa vie afin que les autres puissent vivre. Le but final dans cette vie, c'est de servir. Que nous soyons ici, que nous soyons dans le royaume de Dieu, nous allons servir, afin que les autres puissent aussi arriver au but final. C'est beau tout ça. Alors, il y a un prix à payer? Si. Le prix à payer, c'est cette lutte entre nous-mêmes, entre notre nature charnelle et la nature humaine, divine que nous héritons par le baptême et réception du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ajoute au verset 18 un verset magnifique. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparé à la gloire à venir, qui sera, dit-il, révélée pour nous. Et c'est vrai. Je dis souvent, lorsque je parle aux gens qui souffrent, écoutez, je comprends, il ne faut pas dire que la souffrance n'existe pas. Mais d'autre part, ayez les yeux, portez les yeux sur le but. Au-delà des souffrances. La vie est tellement fantastique, la vie que Dieu nous promet, que les souffrances présentes ne sont rien, car c'est temporaire, ces souffrances. C'est quoi 100 ans, même si vous vivez 100 ans. Les souffrances de 100 ans, mettons, rien à comparer à l'éternité de bonheur, de réjouissance et de paix dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, écoutez, il n'y a rien à comparer. Et dit-il, même la création, versets 19 et 20, vous n'avez qu'à lire parce qu'il faut que je voudrais finir tout ça. Voyez-vous, même la création, regardez-moi autour de vous, aujourd'hui on parle du réchauffement de la terre et tout ce que vous voulez, on parle des catastrophes naturelles. Je sais, ça existe, mais ce sont les hommes qui ont détourné cet ordre dans la loi physique. Nous avons en quelque sorte souillé la nature et qui cause certains tremblements de terre, certaines, je sais quoi, la sécheresse. Voilà pourquoi nous souffrons. Mais si nous avions, nous, vraiment, humainement parlant, respecté les lois divines en ce qui concerne la nature, nous n'aurions pas des grèves, nous n'aurions pas des chômages, nous n'aurions pas des souffrances physiques, nous n'aurions pas non plus, je dirais, de faim. Parce que ce qui se passe, voyez-vous, nous avons en quelque sorte gaspillé tout ce que nous avions. Nous avons souillé tout ce que nous avons. Nous avons souillé la nature humaine. Voilà pourquoi les sécheresses, voilà pourquoi les intempéries et tout ce que vous voulez. Et Paul dit, tout ça, ça va changer lorsque Christ viendra. Et dit-il, même la création entière, dit-il, versets 21, en souffre, mais cette création elle-même en sera délivrée. Donc, il continue avec ce sujet. Nous sommes, dit-il, car c'est ainsi que nous sommes sauvés ou bien nous sommes en train d'être sauvés. Là encore, voyez-vous, parfois, la traduction n'est pas bonne. En hébreu, le temps est présent, participe présent. Nous sommes en train d'être sauvés. Je ne suis pas sauvé, je suis en train d'être sauvé. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous marchez dans la bonne voie, vous êtes en train d'être sauvé. Tant dit-il, toute la création attend cette espérance. Versets 23, 24, 25. Ça, c'est donc le développement de ce sujet. Alors, est-ce que je peux moi-même faire tout ça? Non. Je peux seulement arriver à faire ça par l'Esprit de Dieu, par le Christ. Le Christ qui a donné sa vie, le Christ qui nous a montré la voie à suivre. Mes frères et mes sœurs, je vous pose la question. Vous êtes malade. Vous priez. Est-ce que vous êtes certain que Dieu entend vos prières? Vous avez des difficultés dans votre vie. Vous priez et vous êtes sincère. Vous dites, écoute Dieu, aide-moi, je te prie. Êtes-vous sincère que Dieu vous entend? Êtes-vous sincère, êtes-vous convaincu que Dieu veut faire quelque chose? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est votre avocat? Qui explique à Dieu le Père, écoute Dieu, voilà ce qu'il entend. Les versets suivants dans Romains, c'est cela. Lorsque je prie, lorsque vous priez, soyez convaincus que le Christ est votre avocat. Que le Christ, c'est exactement ce que vous avez en tête. Le Christ est l'avocat qui explique à Dieu le Père ce que vous avez sur le cœur. Il est bien votre défenseur en quelque sorte. Vous savez, quelle joie de savoir que même si je ne sais pas comment prier, même si mes prières sont faibles, il y a quand même Christ qui interprète mes paroles, qui intercède pour moi. Ça c'est, je dirais, l'une des vérités les plus magnifiques. Moi je ne sais pas comment prier. Lorsque je prie, parfois j'ai des doutes, mais le Christ n'a pas de doute. Le Christ sait comment prier. Lorsque je dis, écoute Dieu, guéris-moi, je sais que le Christ est là, qui non seulement peut guérir, mais aussi dit à Dieu, interprète à Dieu mes sentiments. C'est ce qui est marqué au verset 26-27 Romains chapitre 8, le même Dieu aussi, c'est l'Esprit de Christ, nous aide dans notre faiblesse. Ben oui, je ne sais pas prier, mais le Christ sait. Car nous ne savons pas, dit-il, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ben oui, c'est là. Je ne sais pas. J'ai quelque chose en tête, mais je ne sais pas comment la présenter. Mais dit-il, l'Esprit, le Christ lui-même, qui sonde les esprits, donc, il nous connaît, je paraphrase, il nous connaît lui-même, dit-il, il intercède par des soupirs inexprimables, celui qui sonde les cœurs. Il connaît ces choses-là. Parce que, dit-il, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints dans la Bible ne sont pas des gens qui sont privilégiés. Les saints ne sont pas ceux dont vous voyez les photos sous des tableaux, non. Les saints, d'après la Bible, sont ceux qui suivent les commandements de Dieu, qui vivent d'après la parole de Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains après le baptême et qui suivent donc dans cette voie. Voilà les saints. Vous êtes saint si vous vous qualifiez. Je suis saint si je me qualifiais à cette condition. Et Dieu intercède, le Christ intercède en faveur des saints. Comprenez-vous, mes frères et mes sœurs, pourquoi nous, membres de l'Église, nous devons être tellement reconnaissants à Dieu. Nous devons être tellement heureux, malgré les circonstances, malgré la calamité autour de nous, malgré ces guerres, ces mauvaises nouvelles de par le monde. Non pas que nous les ignorions, non. Non pas que nous disions ça n'existe pas, non. Mais ça existe, mais nos yeux sont au-delà. Et lorsque vous voyez au-delà, vous voyez l'éternité de bonheur et de paix et de réjouissance à comparer à ces quelques années sur cette terre de vanité. Ça, c'est le but, voyez-vous. Une fois que vous avez ça, une fois que vous savez que le Christ est là et intercède pour vous, aucune de vos prières ne doit être vide de sens. Même si, après avoir prié, vous avez certains doutes, au moins dites, le Christ a entendu. Le Christ a intercédé pour moi. Le Christ sait comment expliquer tout ça. Moi, je ne sais pas comment expliquer, mais le Christ le sait. C'est incroyable comme bénédiction. Ensuite, après avoir dit ceci, voilà un verset fantastique dans Romains chapitre 8, verset 28. La plupart des gens connaissent ce verset, mais ils tordent ce verset. Ce verset ne dit pas « Nous savons en effet que toute chose concourt à notre bien ». Non, non, voyez-vous, ça c'est tordre la façon de lire les choses. La Bible ne dit pas que toute chose concourt à notre bien, non. La Bible dit, regardez voir les conditions, il y a toujours conditions, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est suivre la voie qu'il a tracée devant nous, c'est faire sa volonté, c'est d'observer ses commandements, de ceux qui sont, donc, qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ah, vous direz, tiens, Dieu fait exception de personne? Non, pas du tout. Dieu appelle tous. Dieu veut que tous soient sauvés. À travers les évangiles, c'est cette vérité qui est sortie. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais pour le moment, Dieu a appelé un certain nombre d'entre nous, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce qu'il nous a confié une tâche à faire. Cette tâche consiste, après le Christ, à préparer la voie du second avènement du Christ. Donc, nous avertissons le monde de ce qui va se passer. Nous proclamons l'Évangile, Matthieu 24, verset 14. Nous proclamons l'Évangile, c'est-à-dire le retour du Christ, en tant que témoignage. Ça, c'est notre tâche. Donc, nous sommes en quelque sorte des appelés, les élus, entre guillemets. Je répète, élus pour une tâche, non pas parce que nous sommes prédestinés dès le commencement de la terre. Là encore, voyez-vous, si vous lisez le tout, vous comprendrez. Dieu appelle en ce moment-ci certains à qui il a confié une tâche et nous devons faire cette tâche. Si nous ne faisons pas cette tâche, nous n'accomplissons pas notre but, notre rôle, évidemment nous perdons notre salut. Mais je suis sûr que tous ceux qui sont appelés de Dieu aujourd'hui, malgré leurs faiblesses, ils font leurs efforts pour arriver au but. Moi, je fais beaucoup de fautes. Et je me repens. Et je demande à Dieu, écoute, Dieu, aide-moi à faire moins de fautes, aide-moi à m'approcher davantage de toi et à vraiment, en quelque sorte, vaincre les tendances de cette nature charnelle. Ce n'est pas facile, ni pour vous, ni pour moi. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. C'est de cela que l'apôtre Paul parle au verset 28, 29, 30. Et ici, par ces versets, Paul nous montre que Dieu, qui nous a appelés, verra à ce que nous puissions accomplir la tâche qu'il nous a demandée. Voilà encore une autre vérité biblique. Si Dieu vous appelle, si Dieu vous confie une tâche, soyez sûr que Dieu vous protégera jusqu'à ce que cette tâche soit accomplie par vous. Regardez-moi l'apôtre Paul. Dieu a dit à l'apôtre Paul, tu iras à Rome. Rien ne pouvait arrêter Paul. Et il y a eu des difficultés dans ce chemin. Il a pu aller jusqu'au bout, il a pu arriver à Rome pour accomplir sa tâche. Donc si Dieu vous accomplit une tâche, mes frères et mes sœurs, soyez sûrs que Dieu vous protégera jusqu'à ce que vous puissiez terminer cette tâche. Ne vous découragez pas, ne vous dites pas, j'en peux plus. Non, le j'en peux plus ne fait pas partie de la Bible. Une fois que vous avez ceci, alors Paul conclut, ça c'est la fin de ce chapitre, c'est fantastique, il dit, que dirons-nous donc, dit-il, à l'égard de ces choses? Vous m'entendez maintenant parler, vous m'entendez expliquer, et je vous montre dans un seul chapitre, dans Romains 8, que Dieu révèle toutes ces vérités qui sont expliquées partout ailleurs dans la Bible. Donc ici, dans Romains 8, tout d'un coup, tout est groupé en quelque sorte. Il dit, lorsque vous entendez tout ça, dit-il, vous dites, mais c'est fantastique. Que dirons-nous à cet égard, dit-il? Et c'est vrai. Lorsque vous entendez quelque chose de fantastique, vous dites, waouh, vous êtes bouche bée. Vous ne savez pas que dire. C'est exactement ce qui se passe. Après avoir entendu toutes ces vérités, vous dites, waouh, vous êtes bouche bée. Et l'apôtre Paul ajoute, si Dieu donc est pour nous, qui sera contre nous? Verset 31. Vous voulez une consolation? Vous voulez un soulagement? Vous voulez la réponse à toutes vos questions? Mémorisez, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lui qui n'a point épargné son Fils, le Christ, mais qui l'a livré pour nous tous. Voyez-vous le sacrifice que Dieu le Père a fait, le sacrifice que le Christ a fait. Mais qu'il a dit, comment ne nous donnera-t-il pas, dit-il, toutes ces choses avec lui? Tout ça, c'est venu à cause du Christ. C'est par la grâce du Christ, c'est par les sacrifices du Christ que nous arrivons à ce point. Si Dieu a fait ça pour lui, dit-il, pour le Christ, et que le Christ a donné sa vie pour nous, alors à plus forte raison, soyez réjouissez-en, car Dieu fera la même chose pour vous. Vous savez, ce sont des promesses qui dépassent. Je vous dis ceci, même en moi, parfois c'est incompréhensible. Parce que je suis humain comme vous, je passe par des épreuves. Mais le fait est qu'il faut que je revienne à cette vérité. Paul dit clairement que Dieu a fait tout cela pour le Christ et aussi pour nous. Et si vous avez cette compréhension, alors, revenons à vous. Vous avez une femme qui est contre vous. Vous avez un homme, mari, qui est contre vous. Vous avez des membres de votre famille qui sont contre vous. Vous avez des employeurs au bureau, des patrons qui sont contre vous. Autrement dit, tout est contre vous. Alors, qu'est-ce qui reste? L'apôtre Paul vous dit, écoutez, une fois que vous comprenez tout ceci, une fois que vous savez que Dieu est avec vous, il dit, qui accusera, dit-il, verset 33, les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Autrement dit, il n'y a pas de condamnation. Si Dieu vous bénit, si Dieu vous guérit, si Dieu vous promet la vie éternelle, il n'y a aucune condamnation pour vous. Il n'y a aucune accusation. Et quoi que les hommes fassent, ils ne peuvent absolument pas avoir le dernier mot. Qu'en est-il ? C'est Dieu qui ressuscite et Dieu fera justice à nous. J'interprète. Il intercède pour nous à nouveau. Qui nous séparera ? Voyez-vous, une fois que vous avez tout ça, alors maintenant, comptez vos difficultés. J'ai vu, vous savez, des gens, je me rappelle un jour, une vieille dame qui me parlait. Oh, il dit, monsieur Appartient, vous savez, je n'ai absolument rien dans la vie qui me réjouisse. Ah bon? Je n'ai rien, absolument rien. Ni famille, ni argent, ni rien, je suis pauvre. Je n'ai rien. Je dis, est-ce que vous aimez Dieu? Oh, oui, j'aime Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu vous aime? Je pense. Mais vous, c'est ça. Autrement dit, elle n'est pas sûre, mais elle aime Dieu, mais sa foi, sa religion était vaine. Si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas dire « je n'ai rien dans cette vie ». Vous pouvez dire « j'ai tout dans ma vie ». Rien ne doit vous séparer de cette conviction. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit. Voyez-vous, après avoir expliqué tout ça, regardez-moi cette élégance avec laquelle il exprime. Il dit, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ ? Sera-ce la tribulation ?» Voilà, il commence maintenant à compter l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, la pauvreté, le péril, l'épée, la guerre. Voilà, cette femme, nous voyez peut-être des problèmes, et peut-être c'est le cas avec vous. Je n'ai rien, absolument rien, je suis seul, et je suis pauvre, je ne sais pas quoi. Alors Paul mentionne la faim, les guerres, les souffrances, tribulation, angoisse. Selon qu'il est écrit, dit-il, si c'est ça, il dit, c'est à cause de toi, dit-il, qu'on nous met à mort tout le jour. Autrement dit, vous souffrez pour le Christ. Vous ne devez pas souffrir à cause de vos péchés. Si vous souffrez à cause de vos péchés, c'est le moment de vous en repentir et de changer. Mais si vos souffrances vous sont imposées car vous aimez le Christ, parce que vous faites sa volonté, dans ce cas-là, ces souffrances sont des bénédictions. Ah oui, c'est ce que Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, chapitre 1, dit, écoutez, comptez vos souffrances en tant que bénédiction. Car par la souffrance, vous arrivez à comprendre ce que c'est que la patience. La patience est quelque chose qui nous manque la plupart du temps. Juste avant d'arriver au but, certains abandonnent. Alors qu'un pas en avant, ils auraient réussi. Ça, c'est la clé de la réussite, mes frères et mes sœurs. N'abandonnez jamais. Pour autant que vous n'avez pas abandonné, vous avez toujours l'occasion, la chance de réussir. C'est vrai. Ne baissez pas les bras. Ne dites pas « j'en peux plus ». Aucun des prophètes, aucun des saints dans l'Église, ou dans la Bible, aucun de ceux que Dieu appelait n'a baissé les bras. Ils sont allés jusqu'au bout. Même dans la fosse au lion, comme le cas de Daniel, non. Ils ont dit, nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres du Christ, lorsque les Sadducéens les ont dit, écoutez, ne prêchez pas au nom du Christ, ils ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Voilà cette force. Parce qu'ils étaient convaincus, voyez-vous, tandis que certains d'entre nous, nous ne sommes pas. Nous sommes moitié chrétiens. Nous avons un pied dans la terre, sur cette terre, dans le monde, un pied dans la vérité. Moitié-moitié, ça ne va pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Car le Christ a tout donné, tout. La gloire, la vie éternelle, tout ce qu'il avait, afin que nous puissions, nous, partager sa gloire. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Christ a dit, Dieu le rappelle dans la Bible, ne faites pas des compromis avec sa parole. Avec Dieu, je répète, c'est tout ou rien. Et vous avez tout à gagner, rien à perdre. Après avoir dit ceci, l'apôtre Paul nous montre encore une autre façon d'aborder le sujet. Il dit, verset 37, « Dans toutes ces choses, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs. » Voilà. On parlait des souffrances, on parlait des difficultés. Quelle est la réponse finale? Nous sommes vainqueurs. Je vous ai dit, pour autant que vous continuez, vous n'avez pas abandonné, vous n'êtes pas, comment dirais-je, vaincu. Vous êtes toujours vainqueur. Pour autant que vous continuez, vous êtes toujours vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs, dit-il, par celui qui nous a aimés. C'est toujours le Christ, voyez-vous, c'est pas moi, c'est pas moi. La force que nous avons, c'est le Christ. À travers ce chapitre, vous avez vu que c'est toujours le Christ qui fait. Mais nous devons nous abandonner à lui. Nous devons nous faire sa volonté. Nous devons nous avoir confiance en lui. Nous devons nous le laisser nous guider. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, laissez-le faire. C'est celui qui nous a aimés. Car, dit-il, j'ai l'assurance. Voilà encore un autre mot. Lorsque vous lisez la Bible, ayez l'assurance que ce que Dieu dit est juste. Ce que Dieu dit est absolument certain. Ce que Dieu dit va s'accomplir. Ça, c'est l'assurance. Si vous parlez à un homme, un individu humain, vous ne pouvez pas avoir l'assurance que tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Non. Parce que nous sommes tous faillibles. Mais tout ce que Dieu dit, nous pouvons avoir l'assurance absolue que c'est juste et que ça va se passer. Alors, maintenant que vous lisez la Bible, ayez ceci, car j'ai l'assurance, dit-il. Et vous, moi, nous devons dire en dire autant que... Alors, quoi? Vous avez perdu quoi? La mort? Des souffrances? Des attaques? Quoi? De quoi avez-vous peur? L'apôtre Paul vous répond, je l'assure, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ou bien des démons si vous voulez, ni les dominions, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, autrement dit, rien, absolument rien. Il montre ici quelques extrémités, ni aucune autre chose, dit-il, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté par en Jésus-Christ. Vous savez, ça dépasse. Ça dépasse la compréhension. Je ne peux pas trouver d'autres mots pour expliquer la façon dont l'apôtre Paul explique les extrêmes. J'ai vu dans mon ministère pas mal de gens, vous savez, qui disent, oh, vous savez, monsieur appartient, j'ai rien, j'ai aucune raison pour vivre. Et humainement parlant, ils ont raison, il n'y a rien. Leur vie est un vide total. Mais ça, ce n'est pas la voie du christianisme. L'apôtre Paul nous montre ici, dans ces deux derniers versets, Romains 8, que rien au monde, quelle que soit votre pauvreté, quelles que soient vos souffrances, rien, aucune de ces choses-là ne doit vous séparer de Dieu, manifesté par le Christ, l'amour du Christ. Alors, mes frères et mes sœurs, est-ce ainsi que vous raisonnez? Est-ce ainsi que vous pensez? Lorsque vous lisez la Bible, ayez Romains 8 en tête, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Lorsque vous parlez du salut, ayez Romains 8, que ce soit dans vos pensées ou dans vos actes. Lorsque vous êtes en but à des circonstances qui n'ont pas de solution, pensez à Romains 8. Que le Christ intercède pour vous. Que le Christ est là toujours à expliquer à Dieu le Père la cause et vos problèmes. Expliquez-le que lui, il a donné sa vie afin que vous puissiez parvenir au but. Quel que soit votre désespoir, dites-vous un jour je serai enfant de Dieu. L'autre jour, je voyais dans le journal, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, un prince de ce monde que beaucoup de gens envient, riche, jeune, tout ce que vous voulez. Mais prenez cet exemple. Un prince qui aujourd'hui a toutes ses entre guillemets, gloire humaine. Demain, il ne sera plus. Demain, il sera poussière. Mais maintenant, comparez ceci à vous et à moi, à nous tous qui sommes appelés, nous serons princes, nous serons des héritiers du Christ. Et notre gloire ne sera pas seulement temporaire, mais ça sera éternel. Nous aurons cette joie de vivre, non pas pour nous-mêmes, mais pour aider les autres. Plus vous donnez, plus vous êtes bénis. C'est ce que le Christ a dit. C'est encore là une autre vérité importante dans la Bible. Plus vous aidez votre prochain, plus vous êtes béni. Plus vous avez de bonnes pensées à son égard, plus vos pensées sont meilleures en ce qui vous concerne vous, et plus vous avez la paix d'esprit. Nous sommes trop égoïstes dans notre pensée, dans notre façon de penser. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains 8 que la chair humaine est une inimitié contre Dieu. Commencez-vous à comprendre. J'ai fait ce sermon, je me suis dit, tiens, ça peut aider. Mais il y a plus qu'aider. Ce petit chapitre, Romains 8, vous explique exactement ce qui s'est passé dans Genèse, ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, ce qui se passe aujourd'hui avec le monde, avec les guerres, et ce qui va se passer, car en fin de compte, le but final, c'est la gloire éternelle. La voie à suivre, la Bible vous la révèle. Les 10 commandements, si vous voulez. Les autres commandements, prenez chaque chose dans la Bible, chaque instruction, respectez-la. Ne faites pas des compromis avec Dieu. C'est pour votre bien et non pas, les instructions divines ne sont pas une imposition. Ce ne sont pas des fardeaux. Ce sont des instructions qui vous montrent la voie facile. Facile, plus vous vous soumettez à Dieu, plus votre obéissance devient facile. Ah oui, le commencement c'est difficile, mais une fois que vous vous êtes lancé là-dedans, vous verrez que le tout est magnifiquement, je dirais, incroyable à croire, mais magnifiquement facile. Parce que c'est pour notre bien. Lorsque vous dites à un enfant, fais ceci ou fais cela, vous dites cela parce que vous aimez l'enfant. Si l'enfant a confiance en vous, s'il vous obéit, il sera béni. De même, nous sommes enfants de Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu le Père et au Christ, nous serons bénis. L'obéissance à Dieu deviendra beaucoup plus facile qu'elle ne l'est pour le moment. Eh oui. Pour certains d'entre nous, l'obéissance à Dieu est un fardeau, alors que c'est le contraire qui doit être vrai. L'obéissance à Dieu doit être pour nous est une bénédiction, une joie, ou de pouvoir vous dire le matin, « Oh, je suis content de pouvoir obéir à Dieu. Oh, je suis content de faire la volonté de Dieu aujourd'hui. » Et lorsque vous vous couchez le soir, vous direz, « Je sais que Dieu m'aime, Dieu va me protéger. » Ce faisant, vous aurez une vie tout à fait différente. Alors, pour terminer, appréciez la Bible. Appréciez ce que je viens de vous dire ici. Prenez n'importe quel sujet, comme je dis, comme je viens de faire, étudiez ainsi, appréciez la vérité que vous apprenez. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui tout, ça n'a pas d'importance, comme le Christ. Jean 13, verset 7, il dit, « Ce que vous ne comprenez pas maintenant, il a dit à Pierre, vous comprendrez plus tard. » Et c'est vrai. Si vous ne comprendrez pas maintenant, faites votre part, vous comprendrez en temps utile. En fin de compte, revenez à Jean 13, verset 17. Rappelez-vous ce commandement du Christ. C'est la base même de tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Le Christ a dit, si vous savez ces choses, Jean 13, 17, si vous savez ces choses, heureux êtes-vous. Pourvu que vous les pratiquiez. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous cette vérité divine. Vous savez toutes ces choses. Vous serez heureux si vous les pratiquez.